Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 38e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Luc Bossé, bédéiste, mais également fondateur président directeur général des éditions Pow Pow. Bonjour Luc Bossé.
Bonjour Jean-Dominique Leduc.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Très, très heureux de te recevoir à ce micro parce que, ma foi, il y a beaucoup de matière quand on parle de Luc Bossé. Oui, là, vous ne voyez pas, mais pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, Luc vient de faire une moue. oui, parce que, bon, en plus d'être un bédéiste, tu es le président, directeur, général, fondateur des éditions Pow Pow, qui en est à sa 14e année de vie.
Oui, 14 ans au mois de novembre.
14 ans au mois de novembre, donc félicitations. Hein?
Ben merci.
Parce que, je veux dire, piloter une structure éditoriale au Québec, c'est, et je t'invite à terminer la phrase.
Pas facile.
Oui, je m'en allais. Ben oui, donc on peut dire que c'est... Oui, c'est pas facile, mais est-ce que c'est un acte de foi, en quelque part?
Ben pour moi, c'est un acte de naïveté au début.
Surtout. Oui, mais là, la naïveté, ça ne dure pas 14 ans.
Hein? Non. Maintenant, je veux dire, je pense qu'il faut vraiment que tu aimes ça. Parce que je ne veux pas parler pour les autres, mais moi, la raison pour que je continue, c'est que j'aime vraiment ça. T'sais, avant d'arriver ici, j'étais en train de lire un manuscrit, puis j'ai pas eu le temps de le lire au complet, puis ça me gossait de ne pas le finir. Fait que, tu sais, j'aime vraiment ça. Là. Puis la magie du livre qui vient d'être imprimé est encore quasiment identique que la première journée. J'ai hâte de le voir, je me peux plus. La journée que je sais que je vais recevoir le livre, quand j'entends un camion passer devant la maison, je me lève la tête, c'est-tu UPS, c'est-tu Post Canada qui m'amène les livres, je suis excité. Fait que, tu sais, tant que j'ai cette excitation, parce qu'il y a des affaires plates, là, mais tant que j'ai cette excitation-là, ça me permet de continuer. Je sais pas si c'est ça un acte de foi, là, mais...
C'est vrai que c'est grisant, hein, ouvrir sa boîte de livres, ou en tout cas la première prise de contact avec l'objet physique sur lequel on a tellement déployé d'efforts. Il y a vraiment... C'est dur à accoter ça comme... comme enivrement, ouais, je dirais.
Oui, c'est vraiment un bon buzz, là.
Ouais. C'est une bonne drogue. C'est une drogue qui coûte cher, par exemple. Hein?
Dans la bande dessinée plus que le roman, elle coûte un peu plus cher.
Ouais. Ouais. Alors, je me souviens d'avoir réalisé avec toi une entrevue pour le Journal de Montréal au tout début, moi, de mon mandat, donc en 2011, ce qui fait en sorte que Papa avait à peine un an. Et je me souviens de t'avoir posé la question, à savoir, c'est quoi quelle sera la ligne éditoriale de Papa? Espèce de question quiz. En tout cas, une chose est sûre. Ce que Papa a réussi à faire, et là, je vais faire une analogie à The Fast and the Furious. C'est que tu as réussi, je sais que ça semble un peu loin, mais tu vas voir. C'est que tu as réussi à fonder une famille. Et la famille, c'est plus important que tout. Alors, tu t'es entouré d'une famille de collaborateurs, d'autrices, d'auteurs, mais aussi d'un lectorat qui t'est extrêmement fidèle. Il y a quelque chose avec Pow Pow que moi, j'avais jamais vu dans la bande dessinée québécoise. C'est qu'il y a des lectrices et des lecteurs de Pow Pow. Il y a un nouveau Pow Pow qui sort, ça leur prend. Sans égard à qui l'a fait, peu importe, là. Il y a un nouveau Pow Pow, donc ça me le prend. Et ça, il n'y avait pas de cas de figure dans la bande dessinée québécoise avant ça, en tout cas de mémoire d'homme. Ça te dit quoi, ça?
qu'on a réussi... parce que, tu sais, au début, tu sais, je me rappelle quand, tu sais, ça faisait même pas un an, là, l'entrevue de.
Ouais.
Tu sais, Motel Galactique venait juste de sortir, je pense que c'était le troisième livre, là, me semble.
C'est... Oui, il y avait eu Sviane.
Yves. Puis, Motel Galactique, c'était le troisième, c'était au Salon de Québec, me semble, on s'est vu. Ça se peut-tu?
Non, c'est au Salon de Montréal.
Ah ouais?
Okay. Oui, c'est avant Noël. Oui, je me souviens. Ça faisait à peine 2 mois que j'écrivais pour le Journal de Montréal.
Okay, ça faisait un an exactement.
Ouais.
Ben, au début, mon objectif, c'était... parce qu'on n'était pas connus. Je veux dire, on sortait de nulle part, puis je sortais du monde du graphisme puis de la communication graphique, fait que dans le monde de la pub, fait que je voulais employer mes skills à fonder ça, ouais. Faire ton image d'entreprise. Une image d'entreprise, c'est pas juste un logo, c'est autre chose. Puis le format du livre, le choix de papier, au début, c'était en carton craft, puis on sérigraphiait,
ouais.
Qui était une très mauvaise idée, mais qui servait, qui avait une fonction, un but, c'était de faire jaser un peu. Pourquoi vous faites ça? Vos livres sont beaux. Ah, c'est en sérigraphie, c'est fait à la main, les gens les touchaient, puis on se filmait en train de faire ça, on prenait des photos, tu mets ça sur les réseaux sociaux, puis ça fait jaser. Il y avait le format. Moi, je voulais qu'on ait un esprit de gang, puis que les livres d'auteurs plus connus servent les moins connus, puis que surtout que les libraires aient envie de les remettre ensemble, puis des associés, puis des identifiés comme étant partie de la même gang. Puis le format aussi qui n'était pas tellement grand pour de la bande dessinée.
Non, un format quand même assez atypique, là.
C'est ça. Mais ouais. Tu sais, c'était... Je voulais faire un espèce de rapprochement plus avec le monde littéraire, un chevauchement entre le monde littéraire et la bande dessinée.
Est-ce que c'est parce que tu voulais faire du roman graphique, Luc?
On n'embarquera pas dans cette discussion. Je te parle d'objet de...
Oui, excuse-moi.
Non, c'est correct.
Je suis un cabotin devant l'éternel. Oui, excuse-moi.
Pour moi, on fait de la bande dessinée. Tu peux appeler ça du roman graphique, ça me fait plaisir aussi. pour moi, c'est la même chose. T'sais. Tant que les gens le lisent, peu importe là, comment ils appellent ça.
Oui, mais c'était l'idée aussi d'aller chercher... Est-ce que c'était pas aussi l'occasion et l'idée d'aller chercher un lectorat extra-BD? Donc, des gens qui sont pas... qui ne grévidaient pas forcément.
Il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de ça. Fait que, tu sais, là, je te parle juste de contenant et non de contenu. Ouais. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas une ligne éditoriale, ça.
Non.
Là, je faisais la charpente pour accueillir le contenu, puis d'avoir une espèce de... reconnaître rapidement, physiquement, les livres. Le carton craft et la sérigraphie a pris le bord éventuellement. Là, ouais. On a évolué de ça, parce que mes bras n'auraient jamais tenu. Ils tenaient déjà pas, là, mais moi... mais, fait que, pour ce qui est de la ligne éditoriale proprement dit, c'est-à-dire le contenu et non le contenant, ben là, ça s'est dessiné au fil des années un peu par soi-même. Tu sais, encore aujourd'hui, quand on remplit des demandes de subvention, parlez-nous de votre ligne éditoriale. C'est encore un peu compliqué. Tu sais, je veux dire, il y a tellement des genres différents, des formes différentes. Si tu prends du Jules Delporte versus du Samuel Quentin, du Michel Hellman, du Francis Desharnais, tu sais, il y a plein de choses vraiment différentes. Mais ce que j'aime beaucoup aujourd'hui, avec le recul, c'est qu'il y a des gens qui vont lire des livres qu'ils n'auraient jamais lus avant, des styles qu'ils n'auraient jamais lus avant, parce qu'ils ont aimé d'autres trucs. Quelqu'un va lire Francis Desharnais ou Samuel Quentin, puis après ça, il se tourne vers Julie Delporte. Je ne sais pas s'il aurait été vers Julie Delporte en partant, tu sais, s'il n'y avait pas eu... on n'avait pas réussi à établir une espèce de confiance de... T'as aimé nos livres, celui-là aussi tu vas l'aimer, même si c'est pas dans ta palette. Fait que ça, c'est satisfaisant.
T'sais. Ben, et c'est pour ça que j'en reviens à l'idée de l'esprit de famille, en quelque sorte, parce que oui, ça inclut votre équipe, mais ça inclut aussi le lectorat. Puis ça, de réussir à fidéliser des gens sur ce fondement-là, c'est quand même pas banal. Et ça, tu n'as pas pu le décider à l'avance. C'est quelque chose qui arrive.
Oui.
Puis quand ça arrive, après, ben tu croises les doigts puis tu travailles fort pour maintenir ça. Via ta structure éditoriale part, tu as lancé des gens, ou en tout cas, tu as permis à des BDistes de produire leurs premiers travaux largement distribués. Je pense notamment à Samuel Quentin, à Sviane,
à Tom,
à Sophie Bédard et combien d'autres.
Sviane faisait déjà des trucs. Elle avait l'Osticha, des affaires-là.
Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, l'Osticha, c'est un petit...
La plus jolie femme du monde, je veux dire. En fait, Ziane, c'était comme un peu le seal of quality du début. Là, tu sais, genre, les deux premiers livres, c'était le mien avec Alexandre Simard,
ouais,
et Apnée. Puis c'était un peu la vedette, la star des deux premiers livres, un peu, là, je veux dire. C'était ça, là, je veux dire. Si ça avait été juste le mien et celui d'Alexandre, peut-être qu'on serait pas là aujourd'hui. Là,
j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que même à ce jour, au moment même d'enregistrer ce podcast-là, alors que Sviane n'a pas commis d'album depuis Football Fantasy, ouais, c'est 2021?
2021, ouais. Ouais.
Elle est encore très présente dans le cœur des lectrices et lecteurs, puis demain matin, tu sors un Sviane, t'en vends, là.
Oui. Oui.
Oui. Là, je te demanderai pas s'il y a des pressions en ce sens.
Non, il n'y a pas de pression, mais parce non, que là, c'est ça. Anyway, là, ça va prendre du temps avec l'année prochaine. Ouais. Elle fait de l'animation, là, elle fait le projet de faire des courts-métrages. Puis...
Okay.
Sviane, c'est une artiste qui fait ce que ça tente.
Elle a vraiment une liberté qu'on voit très rarement chez les gens. Tu sais, l'expression électron libre, oui, pour moi, Sviane, c'est ça.
D'accord.
Évidemment, j'imagine que dans sa vie, elle fait face, tu sais, c'est une mortelle, là, donc elle fait face, elle aussi, à des contraintes, mais quand on la côtoie, et quand on la lit, on a l'impression que rien n'a d'emprise sur elle, que le seul but, c'est le plaisir, c'est la création à l'état brut, et ça, c'est très rare de sentir ça chez quelqu'un.
Oui.
Donc, oui, moi, je suis sûr qu'elle va revenir à la bande dessinée. Comment, quand?
On va être content.
Oh, oui, ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, on en parlera de Football Fantasy, mais si tu veux, j'aimerais remonter un peu le fil du temps. Donc, avant Papa, toi, tu avais commis quelques albums auto-édités BD de cul.
Ouais, ouais. Quel nom, hein?
C'est surtout que quand on te rencontre, quand on te voit, espèce de grand gars qui n'est pas très expansif, très introverti, tu sais, il y a comme un, déjà là, il y a un décalage. Et dans tes bandes aussi, parce que. Évidemment, t'as touché beaucoup à la comédie dans tes bandes. T'as fait beaucoup aussi, ben quand même beaucoup. Ouais. T'en as fait de la pantomime, qui est un genre en soi qui est quand même très exigeant et qui n'est pas reconnu à sa juste valeur auprès du lectorat. Hein, parce que souvent, les gens disent « Ah, c'est muet, ça se lit vite. » Et ça, c'est la preuve qu'il y a un manque d'éducation flagrant quant à la lecture de la bande dessinée, parce que quand il n'y a pas de texte, les clés de compréhension ne sont que dans les dessins. Alors, si tu lis ça en 30 secondes, t'as rien lu, t'as tourné des pages.
Ben, c'est de la lecture, le muet.
Oui, c'est de la lecture.
Je veux dire, t'sais, Tom, le meilleur exemple du muet, je suis comme le champion du muet tant qu'à moi aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, sans mots, tu déposes le livre, t'as l'impression d'avoir lu un texte. Je veux dire, c'est des... L'écriture, c'est des lettres, c'est des dessins. Là. Fait que, pour moi, c'est la même chose. Là. C'est juste une écriture un peu plus complexe, un peu plus dure à maîtriser, à mettre sur papier, mais quand tu réussis à le faire comme il faut, c'est malade.
Surtout son Casa Rodeo, son plus récent, là, qui est paru chez vous.
Botanical, le dernier.
Oui, qu'est-ce que je dis là? Oui, j'avais l'image de la couverture, mais bon, c'est mon âge, hein, vieillissant.
C'est correct.
On fera pas d'angisme ici. Mais oui, dans son plus récent, c'est drôle parce que c'est muet, mais... Par moment, en lisant ça, j'avais la même impression que quand, et ça, j'étais vraiment pas pour mon plaisir à l'époque, mais quand je lisais de l'Alexandrin pour le théâtre.
Okay.
Il y a un rythme et il y a une construction dans l'Alexandrin, hein, les vers en 12 pieds, donc ça rime toujours. Et il y a un moment où je lisais ça, je me disais, mais s'il y avait du texte, est-ce que ça serait en Alexandrin? C'est drôle, parce que... Parce que ça se pourrait, dans le sens où, chez eux, Tom, et j'imagine que pour l'éditeur que t'es, t'as quand même publié 3 albums de cet auteur-là. Là. Publier un album muet au Québec, ça, c'est un acte de foi. Est-ce que c'est un acte de foi?
Je reviens à mon premier mot, naïveté. Ouais.
Oui, mais naïveté. Oui.
Non, mais...
Mais la beauté de la chose, c'est que tu développes. c'est que tu choisis de poursuivre dans cette veine-là et de permettre à cet auteur-là de développer sa voix chez vous.
La persévérance a porté fruit dans ce cas-là. Son troisième a finalement ouvert les yeux à bien du monde. Puis tant mieux, je veux dire, je suis content pour Tom parce que c'est bien beau faire des livres, là. C'est pas juste l'argent dans la vie, mais tu sais, faut en vendre aussi. Si tu veux en faire d'autres, il faut que tu.
Ben oui.
c'est ça aussi, là.
Oui, parce qu'il y a tout un écosystème à nourrir. Ça coûte excessivement cher. Ouais. On le sait, faire de la bande dessinée. Puis il y a aussi l'enjeu de. Tu sais, là, on vit depuis un certain moment. Au niveau mondial, certaines difficultés économiques. Quoique aux États-Unis, semble-t-il que les choses vont bien. Mais au niveau économique,
oui.
S'entend. Mais tu sais, avec le spectre d'une récession, on sait que le dollar culturel, ben c'est le premier affecté. Hein? Les gens, quand ils sont capables, ils vont se loger puis ils vont se nourrir d'abord. Mais c'est ça qui est formidable chez vous, dans le catalogue de Pow Pow, c'est qu'on sent la prise de risque. Mais on sent surtout le plaisir. Il y a quelque chose de connivence. C'est comme si, par exemple, tu sais, le premier album de Tom, moi, j'avais vu ça comme un clin d'œil. Comme si papa faisait un clin d'œil au lecteur en disant « On vous amène là, êtes-vous prête? » OK. Puis là, deuxième album, Casa Rodeo. Et là, tout à coup, on se dit « OK, donc là, persiste et signe. » Donc, voilà un éditeur qui se dit « OK, dans mon catalogue, je fais des choix. » Et je pense que c'est le propre de vrais bons éditeurs. C'est-à-dire que ton catalogue repose en partie sur certains albums qui ont connu du succès et qui connaissent du succès, ce qui te permet après ça d'avoir une prise de risque pour certains projets. Est-ce que je me trompe?
C'est 100% véridique.
C'est fou parce que Samuel Quentin, c'est possiblement dans ton catalogue l'auteur qui rayonne le plus à l'extérieur de la bande dessinée.
Ouais.
Donc là, on sait que le film est tourné, je pense, Ville et Misérable aussi.
Il est même monté, je pense.
Il est monté, OK.
Il sort au mois de février, fait que c'est encore loin. Là.
OK, donc, adaptation de Ville et Misérable. Moi, je me souviens, quand ce livre-là est paru, j'ai lu ça. Quand j'ai fermé le livre une première fois, je me suis posé deux questions. Qu'est-ce que je viens de lire? Et qui c'est ça, Samuel Quentin? Je savais qu'il avait son blog. Il t'avait auparavant donc publié une version de son blog, blog. Mais Ville et Misérable dans ton catalogue, c'est quand même, je pense que c'est quand même un échelon, que c'est une étape, que c'est un palier. Parce que tout à coup, il y a eu un buzz autour de cet album-là. Et ça, c'est une autre des particularités de Pow Pow. C'est qu'au niveau médiatique, vous avez réussi à vous camper là où aucun autre éditeur était allé. Et là, je pense notamment à Marie-Louise Arsenault et sa regrettée émission « Plus on est de fous, plus on lit », où je pense que c'était quasiment rendu ça. Là. À chaque nouveau part-part, il y avait un micro avec l'artiste. Là. C'est quand même pas banal. Et ça aussi, le part-part veut pas t'entretien un lien quand même assez particulier avec les médias, non?
Ben, tu sais, c'est pas un lien forcé, là. T'sais,
non.
Parce que, premièrement, les 8, 9, 10 premières années, j'étais seul. Fait qu'il fallait que je fasse tout, dont les montages des livres et les relations de presse. Fait que les relations de presse étaient un peu négligées, là. Ça se résumait pratiquement juste à envoyer des livres puis en croisant les doigts à certains médias. Fait que c'est niaiseux ce que je vais dire, là, mais tu sais, je pense que le plus important dans tout, c'est de faire des bons livres. Ça devrait bien aller à partir de là. Je veux dire, si tu fais une bouse et tu mets tout l'argent que tu veux sur la relation de presse, ça va peut-être marcher, mais ça ne marchera pas à tous les coups.
Hey, tu dis ça, là, puis j'ai des cas de figure dont je ne parlerai pas au micro, mais.
Ouais, je pensais à personne quand je disais ça.
Mais non!
Chaque livre est important, c'est un livre à la fois. Puis la qualité va finir par la crème, puis tu t'espères que ça va finir par sortir. Puis que, t'sais. Fait que la relation de presse n'a pas été si... on a une bonne relation, oui, mais je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas un suivi agressif, il n'y a pas de... On envoie les livres, on envoie nos communiqués de presse, on fait un suivi quand on a des demandes, mais c'est pas...
Mais on sent l'intérêt Et chez certains de mes collègues dans les médias, notamment François Lemay au Devoir pour ne pas le nommer, ben, tu sais, quand il y a un nouveau passe-passe, c'est sûr que tout à coup, les capteurs sont allumés. Là. C'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'il faut se le dire. D'ailleurs, je veux te poser la question. Tu sais, ça fait 14 ans que tu pilotes une structure éditoriale. Lorsque tu as commencé il y a 14 ans, il y avait beaucoup moins de bandes dessinées annuellement qui paraissaient au Québec. Ouais. Là. Et produites au Québec. Là. Ouais. Je parle même pas de la bande dessinée étrangère. Là. 14 ans plus tard...
C'est cool.
Oui, ben c'est justement. Alors moi, je veux t'entendre là-dessus. Puis on reviendra après à Samuel Quentin, une porte que j'ai ouverte un peu plus tôt. Mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. Le milieu s'est quand même transfiguré. Là. C'est-à-dire que non seulement il y a des éditeurs généralistes qui, flairant la bonne affaire ou voulant surfer sur une tendance, se sont improvisés un espèce de début de catalogue. Des fois, c'est heureux, des fois, ça l'est moins. Mais il y a beaucoup de structures éditoriales consacrées à la bande dessinée qui sont arrivées dans le milieu là, suite à l'avènement de PowerPower. Ça te dit quoi, toi, ça, du milieu actuel? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un lectorat assez conséquent pour se servir, pour être bien servi par tout cet écosystème-là maintenant?
Ben, à l'époque, je sentais qu'il y avait de la place pour des éditeurs.
Ouais.
Puis je l'ai dit longtemps, puis je le dis encore, je pense, il y a encore de la place pour des éditeurs parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui cognent à la porte. Le talent est là. Puis, tu sais, je veux dire, ça va prendre un peu plus que... Si on veut que le talent soit imprimé puis édité, ça va prendre plusieurs éditeurs. Il y en a un peu plus, c'est tant mieux. Puis je suis content de ça parce que, je veux dire, après ça, tout rayonne ensemble. Je veux dire, quand tu fais là, un festival comme à Montréal, puis là, il faut que tu loues tes tentes, il faut que tu remplisses ces tentes-là si tu veux tirer du monde. Fait que, tu sais, je veux dire, je suis content qu'il y ait plein d'éditeurs.
T'sais. Ouais.
Puis ça veut dire que le marché est en santé. Puis le flair des autres éditeurs, que tu sais, les éditeurs plus traditionnels, tu sais, tu regardes les statistiques des ventes,
ouais,
par genre. Le roman descend un peu, la poésie monte, descend. Puis tu as la bande dessinée qui monte.
Oui, la bande dessinée monte, effectivement.
Là, c'est sûr que si tu es un homme d'affaires, ce que je ne suis pas, que tu sais, faut faire des pièces. Oh, OK, il y a peut-être de l'argent à faire là, il y a de la pièce. Je pense que tes chiffres-là sont un peu gonflés à cause d'Alexa aussi. Là, je veux dire, quand tu fais les ventes de bandes dessinées au Québec.
Ben, c'est sûr qu'Alexa, avec ses séries La Jean-Jean, L'Univers est un ninja, puis tous ses projets connexes.
Mais tout ça pour dire que l'intérêt du lectorat par rapport à la bande dessinée, c'est le lectorat qui a changé plus que que d'autres choses.
Plus que le milieu, ouais,
ouais,
c'est ça.
Parce que, tu sais, ça fait 15 ans que je me prends dans les événements, puis que j'entends les gens parler, puis le discours a changé, tu sais. Il y a 15 ans, j'entendais vraiment plus souvent des parents rabattre leurs enfants pour dire que la bande dessinée, c'est pas des vrais livres. Puis je l'entends, c'est même pas une blague, là, j'ai entendu mot à mot, là, tu sais, on va aller chercher un vrai livre. Alors que tu as un enfant qui est intéressé à lire quelque chose, si ton enfant veut lire une boîte de céréales, laisse-le lire tant qu'il lit, puis des mots qui rentrent dans la tête, c'est, je veux dire,
oui, c'est de la lecture.
C'est de la lecture. C'est important, peu importe ce qu'il lit.
Tout à fait.
Puis la bande dessinée, je n'ai pas besoin d'essayer de démontrer que la bande dessinée, en tout cas, bref.
Oh oui, on n'a pas besoin de reprendre ce bâton de pèlerin-là. Non, non.
Mais fait que le lectorat s'est ouvert un peu plus à la bande dessinée, puis il y a des initiatives. Le mois de la BD dans les bibliothèques de Montréal aide beaucoup. Toi, tu fais de la médiation. Il y a quand même un vouloir, un mouvement. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Où sais-tu? Bon, les gens voient qu'il y a un intérêt pour la bande dessinée. Accompagnons-les, poussons dans ce sens-là parce que c'est ça que les jeunes veulent lire. Ou, puis je dis les jeunes, c'est même pas juste les jeunes parce que c'est pas notre lectorat, là, nous autres. Là. Mais en même temps, ce lectorat-là, il a été préparé depuis longtemps. Je veux dire, tu sais, je te parlais tantôt avant qu'on commence, que, ouais, tu sais, après la COVID, quand il y a eu l'événement, le Salon du Livre de Québec, puis là, je voyais débarquer des lecteurs, acheteurs, parce que dans les événements, c'était un peu ça, qui ont 22, 23 ans. Mais quand on a commencé, il y avait 12 ans, là, tu sais, fait que, c'est pas, ils n'ont pas commencé à lire de la bande dessinée pendant la pandémie, là, en tout cas, j'imagine, pour la plupart. Fait que, tu sais, le rapport à la bande dessinée a changé par rapport au lectorat. Fait que, tu sais, ça aide aussi. Là.
Moi, je remarque une chose, puis c'est beaucoup dans ma pratique de médiation, surtout en milieu scolaire, c'est que, indirectement, je pense que c'est l'effet manga aussi. C'est-à-dire que... Et mon raisonnement est le suivant. Le manga, les adultes, généralement, là, la moyenne des ouais. ours, là, ils n'ont aucune idée de par quel bout prendre ça, mmh. au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Et moi, je vois sur le terrain, des fois, des réactions de parents qui disent « Hey, non, non, non. Tant qu'à lire un manga, tu vas lire une vraie bande dessinée. » Alors, tu vois, il y a eu... Oui, mais c'est ça qui est fou. C'est qu'il y a comme une espèce de déplacement. Tout simplement parce que les adultes ont pas les clés de la compréhension du manga. Ils ont un préjugé gros comme le bras ou tout simplement qu'ils prennent pas le risque. Tu sais, le manga, c'est comme du comic. C'est de la bande... Comme le roman graphique, hein, c'est de la bande dessinée. Oui, oui. Bon. En même temps, c'est ça, là, la génération qui ont écouté des animés, qui ont lu du manga il y a 10 ans, tout à coup tombe sur un livre de Svian, un album de Xavier Cadieux. Tu sais, pour moi, la pitoune et la poutine, là. Je me demande à quel point ça penche pas plus du côté manga que du côté terroir, tu comprends? Parce que le terroir, c'est une espèce de construction, c'est un clin d'œil avec le lectorat, mais Cadieux, il y a dans son travail, il y a une électricité, il y a une énergie, il y a... Tu sais, tu dis, ce gars-là, il en a lu, là, du manga. Ouais. C'est sûr qu'il a lu Dragon Ball. C'est ouais. sûr et simple. Donc, je me demande s'il n'y a pas une incidence aussi à ça et que en fait, qu'on dirige aussi des enfants vers de la bande dessinée dite un peu plus, et là, j'utilise les guillemets, classique. Moi, je pense aussi que, au niveau de ta structure, et c'est pour ça que j'en reviens à Samuel Quentin, et ça, Michel Rabagliati l'a prouvé des années plus tôt avec la pastèque, c'est que tout à coup, Paul, le succès de Paul, pour moi, le véritable succès, c'est qu'il a réussi à percer le cercle serré des lectrices et lecteurs de bande dessinée. Michel Rabagliati a réussi à sortir et à aller chercher un plus vaste lectorat.
Oui.
Pour moi, Quentin... Et de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il est allé chercher un lectorat. Tu sais, moi, quelqu'un qui lit un livre des éditions de ta mère, là, par exemple, ouais. va lire un Sam Quentin.
Oui.
Passer de l'un à l'autre, pour moi, il y a une passerelle, il y a quelque chose de naturel ou tu sais, je sais pas, peu importe, on pourrait nommer des structures comme Loi de Cravant, etc. Ouais, etc. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que Sam Quentin a permis. De par son rayonnement, puis aussi de par le ton, la couleur très, très propre à lui, hein, de ses albums, a réussi à aller chercher un lectorat extra bande dessinée. Bon, moi, quand je l'ai lu tout de suite, ça m'est apparu clair. Je me suis dit, ce gars-là vient du cinéma parce qu'il y a une manière de dialoguer, non seulement de scénariser, mais de dialoguer. Et d'ailleurs, moi, j'ai adapté certaines de ses bandes dessinées en lecture publique, puis je veux dire, le travail, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que tout est dans les dialogues, tu sais. Mais là, Sam Quentin, ce qui est magnifique, c'est que, bon, Ville et Misérable adapté au cinéma, White Horse au théâtre, et comble du bonheur, mais quand même aussi de l'absurdité, on n'aurait jamais pu prévoir ça un jour, ils ont publié le manuscrit de la pièce de théâtre de White Horse. Alors là, vous avez moyen d'acheter White Horse sans les images. Et ça, pour moi... C'est à la fois de la science-fiction. Il y a 20 ans, on aurait dit ça, tout le monde aurait éclaté de rire. Mais en même temps, je trouve que ça témoigne d'une étape importante que la bande dessinée, en général, a réussi à faire, et en particulier par rapport à ton catalogue, il est vaste dans la palette de tonalités. Qu'est-ce qui fait que Luc Bossé, chez par rapport, dans son château, là, dans son grand, grand bureau, là, devant
très,
ses...
Très grand.
Oui, très grand. Et quand son majordome lui amène les manuscrits du jour, qu'est-ce qui fait que le président directeur général de Pau-Pau décide de donner le feu vert à un album? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que tu recherches, toi, comme éditeur?
Hey boy, ben regarde, tantôt encore avant qu'on on parle de l'enregistrement, on a parlé d'un des livres qui va sortir à l'automne, Tsunami, okay, qui est un néo-zélandais. J'ai aucune idée c'est qui ce gars-là. Son frère a envoyé le manuscrit à la planète entière parce qu'il dit « je vais aider mon frère à trouver un éditeur, il est occupé, il ne sait pas quoi faire », bref, peu importe la raison. Dans son courriel, il faisait, c'était trois phrases, je pense, puis il y avait un screenshot, une capture d'écran, désolé,
oui,
de la couverture du livre, parce qu'il a déjà été publié en Nouvelle-Zélande. Juste la couverture, je dis « oh, ok, il y a un graphisme là-dedans, il y a quelque chose qui m'interpelle. » Je dis « est-ce que je pourrais lire, est-ce que tu as un PDF que je pourrais lire? » « Sure, here it is. » Puis avec un lien, tout ça, je le download, je le lis. Je l'ai lu une page, je l'ai lu au complet d'une traite. Mais là, à partir de là, ben, ok, go. Tu sais, je veux dire, tu sais, je reçois tous les jours des manuscrits, je les ouvre. Des fois, je lis une phrase, je le referme. Ou je regarde les dessins, puis je dis mm-hmm. non. Tu sais, il y en a des fois, tu sais, trop amateur. Pas, ça ne vient pas me chercher graphiquement. Tu sais. Fait que, tu sais, j'ai pas une liste de dire ok, ça prend ça, je cherche ça. Je cherchais pas ce livre-là. Il est arrivé, je l'ai lu, j'aime ça, je le veux. Tu sais. Fait que c'est souvent comme ça. Après ça, il y a les auteurs qui ont déjà fait des livres avec nous. Là, je suis ouvert à tout ce qu'ils vont faire après. Là, tu sais, une fois que.
Tu sais, la famille.
Ben, c'est tout.
Non, mais c'est vrai. Il y a un lien. Une fois qu'on a. Tu sais, je regarde ton catalogue et j'ai l'impression qu'une fois qu'on a réussi à en être, ben, il y a une disposition plus grande pour la suite des choses.
Ben, c'est un peu ça l'idée, là, ouais. Je dirais. C'est comme, avant de m'en venir ici, j'étais en train de lire le découpage du prochain d'Éloïse Marseille. Puis je suis super excité, là. T'sais, je veux dire, on en fait un autre, puis là, tu sais, je suis content qu'on en fasse un autre, parce que, tu sais, en faire un deuxième, c'est pas facile tout le temps, là, tu sais. Puis qu'elle mette le temps, qu'elle le fasse, puis, tu sais, elle me demande, t'es-tu prêt, tu sais, je sais pas c'est quoi la dynamique, mais on dirait c'est comme un oui avant même qu'elle me montre une page, là, mais, tu sais, je sais pas si c'est une bonne approche. Là. Ça m'est jamais arrivé de dire, OK, me semble, en tout cas, en 14 ans, je vais commencer à oublier des affaires, là, mais me semble que j'ai jamais. On a toujours fait le lead de quelqu'un qui voulait faire un autre lead, me semble, en tout cas. Je me trompe peut-être. Là. Mais c'était quoi la question initiale? Il y avait...
Qu'est-ce qui fait qu'un manuscrit obtient le feu vert du président directeur général? Ben,
c'est ça. Faut que j'aime ça. Comment tu me dis? Non, mais il n'y a pas de... Ah, ça prend, ça doit... Ça, parce que, tu sais, dans le milieu de l'édition, là, quand c'était des grosses structures, souvent, ils vont être à la recherche. Ça nous prend du livre de 14-17 ans. Ça nous prend un tel genre. Ça nous prend ça. Tu sais, il y a comme des listes d'épicerie et tout ça.
Oui, parce que, entre autres, un des enjeux des éditeurs généralistes, et peut-être qu'on le dit pas assez, mais c'est de réussir à vendre des livres aux institutions. Donc, les bibliothèques municipales, les bibliothèques scolaires, ça, c'est quand même un enjeu, là.
Oui, mais en même temps, ça va peut-être arriver que durant une saison, on va faire trois livres qui se ressemblent. Ben, pas qui se ressemblent, je veux dire, qui sont dans le même genre, là, peut-être ouais. Trois comédies. Ou, tu sais, il n'y a pas de calcul savant de bon, ça nous prend un peu de drame, un peu de ci, un peu de ça. Puis là, tu sais, bon, on a notre année est faite. Là, c'est plus, OK, c'est quoi les livres qui sont prêts? Ouais, ça c'est le fun, go, on y va. Puis tu sais, c'est un peu à l'intuition.
Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je m'en allais dire. Ouais. C'est très intuitif.
C'est que ça, quasiment. Là, tu sais, mais en même temps, c'est tous des livres que j'adore vraiment beaucoup. Fait que tu sais, il n'y a jamais eu de navet que je disais, ah, pourquoi j'ai fait ça? Ou pas un navet, mais tu sais, un livre, t'sais, avec le recul, tu sais, ouais, celle-là, on aurait peut-être dû passer par-dessus. Fait que faut que je m'écoute, faut que j'écoute les petites voix, puis j'ai pas de réponse pour toi finalement.
Ben, peut-être que tu auras une réponse à ma prochaine question, parce que tu parlais de Tsunami, ouais. Donc qui sera traduit en français, album d'un auteur néo-zélandais, extraordinaire album que j'ai lu hier soir, et j'ai reçu ça comme une tonne de briques en pleine face. Là. Quel excellent album. À quel moment, Luc, dans le parcours, t'as décidé d'ouvrir ton catalogue à de la bande dessinée étrangère et donc à la traduction?
Encore là, ça s'est fait assez naturellement. C'est plus par opportunité que d'autres choses. Mm-hmm. Au début, je veux dire, c'était... le cercle. T'sais, j'écoutais hier ton podcast avec Xavier, puis ça parlait, on dirait que chaque podcast, le sujet de Jimmy Beaulieu, l'atelier de Jimmy Beaulieu revient.
Là, ben oui, mais ça, c'est sûr. Là. Et là, t'en parles, là, je me disais, bon, peut-être que je vais sauter un épisode, mais
on
bon.
On va en parler un petit peu. Là. Mais tu sais, j'allais faire trois fois cet atelier-là, j'ai rencontré plein de monde, ouais. Exposine, les ateliers... Au moment que j'ai commencé, en 2008, 2009, 2010, il y avait comme un bouillonnement quand même. Là. Il y a eu en même temps beaucoup. Catherine Oslo était là, J. Delporte, La Mauvaise Tête était là aussi. Il y avait David Turgeon à l'époque. Il y avait Alexandre Fontaine-Rousseau, il faisait Pinkerton. C'était moment-là, là, ça bouillait. Là, ouais. Il y avait une énergie. Il y avait un. On dirait que. Il y a eu cette chaleur-là, puis ça a donné plein d'affaires. Puis, tu sais, au début, il y avait des auteurs super intéressants à publier. Tu sais. Fait que j'ai pas eu à chercher ben loin. Francis qui me présente son affaire de Motel Galactique avec Pierre Bouchard. Puis, tu sais, OK, Michel, que j'avais rencontré, puis il a dit, j'ai peut-être un livre pour toi, Mylène, qui c'est un des plus grands succès de Papa, puis c'est un livre qu'on vend encore 12 ans après, 12-13 ouais. ans après, tu sais. Puis que, tu sais, probablement que ça s'était appelé Mon Quartier, probablement qu'on n'aurait peut-être pas vendu, mais...
ouais.
Non, mais sans joke, je veux dire, le titre a joué, mais je veux dire, c'est un excellent livre, fait que, tu sais, je veux dire, le titre, c'est une chose, mais il faut que, encore, j'en reviens tantôt, il faut que tu aies la qualité, puis que, tu sais, bon. Ouais. Fait que, il y a eu ça au début, fait qu'il n'y a pas eu de... J'ai pas eu à chercher bien loin, mettons, là. Puis en même temps... Il fallait que je bâtisse un peu ma confiance. Dans un sens, tu t'approches pas Guy Delisle, puis t'as fait trois livres, puis tu dis, j'aimerais ça faire un livre avec toi, Monsieur Delisle. Mm. Puis il y a eu l'épisode de Lewis Trondheim aussi qui s'est présenté.
Oui, parce qu'il faut le dire, il y a un moment où l'association croise le chemin des éditions Pawpaw.
Oui, il y a eu l'association, mais c'est beaucoup Lewis Trondheim qui a croisé le chemin, qui a ouvert un dialogue avec l'association, mais ça n'a jamais été un partenariat officiel avec l'association. C'est plus du cas par cas de mm-hmm. certains livres, tout ça. Parce que, tu sais, il y avait... moi, j'ai beaucoup été influencé par Lewis avant, quand j'ai commencé à en faire, j'en lisais. Il y avait, tu sais, même lui, qui dans ses livres, il dit à un moment donné, il dit, c'est pas parce que tu sais pas dessiner que tu peux pas faire de la bande dessinée, là. Tu sais, dans... pas dessiné avec des guillemets, là, je veux dire, il s'est dessiné, mais je veux dire, c'est la vague de la nouvelle bande dessinée des années 90 en France, ouais. C'était ça, là, du monde qui savait pas dessiner, puis que je mets ça encore en guillemets,
ouais,
là.
Ouais, ouais.
C'était pas des avions réalistes super bien dessinés, avec, tu sais, c'était comme une autre affaire qui arrivait, puis qui a comme brisé un moule, puis
qui questionnait le beau dessin.
Exactement.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que là, on est là en bande dessinée, c'est dans le livre, tu veux raconter une histoire, de quelle façon tu prends pour raconter une histoire, c'est plus ça que faire des beaux avions qui...
oui.
Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, oui, tout à fait. Qui correspond à tous les détails, là, que des spécialistes d'aviation vont faire « Oh non, mais là, tel boulon! » Alors qu'en fait, une bande dessinée, pour moi, Luc, puis corrige-moi si je me trompe, là, pour moi, le principal enjeu, le premier enjeu d'une bande dessinée, c'est la lisibilité. Qu'est-ce que ça raconte et est-ce que c'est clairement raconté?
C'est mon intervention est pas mal juste là. Quand je travaille avec des auteurs, c'est « Je comprends-tu ce que tu essaies de dire? » J'accroche-tu? Je suis obligé de retourner une page en arrière pour voir ce qui s'est passé. C'est ça mes commentaires. Je vais faire rarement des commentaires du genre « Ouais, mais me semble que je le ferais pas mourir à la fin de personnage. » Je veux dire, si tu veux le faire mourir, il fallait mourir. T'sais.
Ouais.
Mais arrange-toi pour que je comprenne pourquoi tu le fais mourir. T'sais.
Parce que, tu sais, au niveau des traductions, ce qu'on remarque aussi, c'est que les albums... étrangers qui intègrent le catalogue de Pawpaw s'intègrent tout naturellement. Tu sais, pour moi, La Mangouste, qui est un formidable album, là, dont on n'a malheureusement pas assez parlé, à mon humble avis, là. Moi, j'ai regardé les collègues autour, puis je me suis dit, bon, ben, ils ont manqué le bateau, là. Un album d'une très grande intelligence, d'une sensibilité formidable. Mais pour moi, La Mangouste, c'est un album Pawpaw. Je suis sûr que si je le voyais dans son édition d'origine, dans sa langue d'origine, tout à coup, le format et tout, je ferais « Ah, non, tiens, c'est... » Pour moi, c'est un album de Pawpaw.
C'est un album qui était, qui est pas facile, dans le sens de... Tu sais, je savais, là, avant de le faire, là, que c'était un album pas facile, parce qu'il demande une lecture plus... tu sais, quand on parlait tantôt du muet qui demande, faut que tu lises le dessin. Elle, tu sais, il y a le texte, puis t'as le dessin, t'as la mise en page, t'as le découpage, t'as ouais. plein d'affaires à analyser, puis que tu lis. Tu peux pas lire ça quand t'es fatigué, là, tu sais, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui... Puis tu peux pas, ça peut pas être le premier, tu sais, quand il dit, hey, j'ai jamais lu de bande dessinée, tu lis un livre à me proposer, ça sera pas celui-là que je vais y mettre dans la main, tu comprends?
Non,
ça prend une certaine expérience de lecture de bande dessinée.
Oui, oui, quoi qu'en même temps, moi je serais très curieux de voir les réactions d'une lectrice ou d'un lecteur qui dont le rapport à la bande dessinée n'est pas très intime, là, qui en a lu à l'enfance, comme ouais, ouais. la grande majorité des ours, là, puis qui bon, on lui met ce livre-là. Je serais très curieux, moi, d'entendre son ressenti, ses commentaires, parce que en même temps, je trouve que des fois, le danger de la bande dessinée, quand on en lit beaucoup, c'est que tout à coup, on perd la vue d'ensemble. Et on a des inclinaisons personnelles, on a des goûts. Là, je parle de moi comme lecteur, pas comme médiateur et chroniqueur. Parce que si, comme chroniqueur, je ne parlais que des choses que j'aime profondément... ça ferait 13 ans et demi que je travaillerais plus. Dans le sens où mon travail, c'est de reconnaître les qualités intrinsèques d'une œuvre, de la mettre en contexte, puis de dire aux gens, vous voulez lire quelque chose, lisez ça, et bon. La mangouste, pour moi, oui, c'est une lecture qui est prenante aussi au niveau émotif.
Oui.
C'est quelque chose de... c'est pas du léger. En même temps, c'est si bien raconté que moi, je serais très, très curieux. Oui, c'est un album qui est exigeant, mais justement, quelqu'un qui ne lit pas de bande dessinée, tiens, justement, à question quiz, mm-hmm. toi, dans ton catalogue, là,
ouais.
ou en général dans la vie là, de lecteur, là, si tu avais un album à mettre dans les mains de quelqu'un qui dit que la bande dessinée, c'est un sous-genre ou que c'est pas intéressant ou que c'est pour les enfants ou quoi que ce soit, tu lui mets quoi dans les mains?
De chez Papa. Ben,
ou en général, parce ben, que là, tu sais, je veux pas que tu brises le cœur de ton équipe.
Ben, ça arrive dans les événements que j'ai à faire cette proposition-là. Là, tu sais, voyons quelqu'un, ouais, je vais acheter un cadeau pour mon père. Il a jamais vraiment lu de bande dessinée, mais j'aimerais essayer de faire découvrir. Tu sais, ça arrive. Là,
donc, tu joues le rôle de l'éditeur libraire dans ce temps-là, souvent, en événement. Oui, oui, oui.
J'adore les événements. Pour vrai, puis je dis pas ça sarcastiquement.
Oh oui.
C'est une des parties de mon travail que j'aime le plus. Là, c'est la en tout cas, là, j'ouvre une autre parenthèse, mais je vais répondre à ta question.
Ouais. Mais après, on ira dans cette parenthèse-là. Ouais. Ouais.
Ça dépend. Je vais poser des questions, en fait. Mais tu sais, le titre qui me vient en tête souvent, c'est La petite Russie, parce que tu vas dire. Ça raconte une histoire identifiable pour un Québécois de l'Abitibi. Puis il y a une twist vraiment intéressante par rapport à un village coop. Quand tu fais ce pitch-là, tu sais, tout de suite, t'accroches quelque chose. Puis il y a rien de choquant non plus. T'sais, je ne mettrais pas Ville et Misérable nécessairement dans les mains de quelqu'un, que je connais pas.
Oui, oui, oui.
Tu comprends?
Oui.
Je veux dire, pas parce que je pense pas que c'est un bon livre, au contraire, mais je veux dire, tu sais pas à qui tu t'adresses nécessairement. Je les connais pas, là, ces gens-là. Ouais. Là, fait que, t'sais, j'y vais plus safe, mettons, le plus, plus sûr. Mais des fois, en posant d'autres questions à la personne, des fois, je peux aller plus loin, des affaires un peu plus osées. Là, je vais m'irion mal avec c'est comme ça que je disparais parce que elle me parlait de quelque chose. Ah, cette personne-là, ah, ça va l'intéresser parce que santé mentale. Puis tout ça.
Ouais.
Julie Delporte, facile aussi à placer à certaines personnes. C'est vraiment du cas par cas. Là, puis c'est pour ça que j'aime mon catalogue, c'est que j'ai la réponse à toutes.
Ouais. Oui, maintenant, vu parce que là, j'ai fait le calcul, là, j'ai ça dans mes notes, là. En fait, oui, alors tu serais rendu à... Tu serais sur le point de franchir le cap du 70 albums chez Pow Pow.
Ça ressemble à ça, je sais pas.
Et Pow Pow Press, ta structure en...
Une vingtaine, oui.
Ouais, une vingtaine.
Ouais.
Ouais. Mais d'ailleurs, les événements, parlons-en, parce que c'est vrai que... dans le cas de certains... petite structure éditoriale se consacrant à la bande dessinée ici au Québec. Les petites équipes, les équipes réduites, les éditeurs, les éditrices, on les voit d'événement en événement. À quel point un événement comme un festival ou un salon du livre, c'est important pour Pow Pow, pour l'éditeur que t'es. Au-delà des ventes, là, on s'entend.
Ouais, parce que si c'était juste une question de vente, il y a plein d'événements qu'on ferait pas. Tu sais, je veux dire, il y a des événements qui sont pas rentables. Même les rentables sont limite rentables. Salon du livre de Montréal, t'en vends une chier, mais tu sais...
Oui, mais ça coûte cher.
C'est ça, ça coûte une chier aussi.
Il faut que les gens sachent que l'espace, le pied carré au Salon du livre, je connais pas les prix, mais je sais que c'est...
7000 piastres, nous autres.
17 000 $
l'année passée.
Pour 5 jours? Ouais. Ah!
Fait que...
Mais ça, on met ça dans la colonne des dépenses puis de promotion, là.
Oui, oui, mais c'est ça, c'est ouais. Ça, c'est de la promo. Ouais. Je dis, on fait nos frais, mais c'est flush, tu sais.
Aïe,
tu fais ça pour te faire voir, te faire connaître, la rencontre des auteurs avec...
Oui, puis ça permet de réseauter aussi, c'est sûr et certain.
Exact, tu sais. Puis moi, c'est pourquoi j'aime ça au bout, c'est que là, tu sais, les auteurs sont souvent chez eux, on les voit pas si souvent que ça, tu sais. Mais là... La gang débarque, puis là, c'est le fun. Là, on jase, tout ça, puis là, j'ai pas mal de les voir, puis de parler avec eux autres, puis de passer du bon temps. Puis l'autre partie que j'adore, c'est la rencontre avec le public. Ça rend la chose concrète. Je veux dire, chez nous, tout le temps, tout seul, quasiment. Mes employés sont à Québec, on fait des Zooms, mais tu sais, ça reste que je suis physiquement seul presque tout le temps, tu sais. Fait que les événements servent à rendre ton travail concret, de voir les livres mis sur des tablettes, de voir les gens les prendre, se parler entre eux autres, parce que tu sais, je suis plus en mode j'écoute ce que les gens disent que je suis en mode aller vers les gens, parce que c'est pas dans ma personnalité tant que ça d'aller vers les gens puis de pitcher des livres puis de forcer des. Je suis pas un vendeur partout, là. Si tu viens me parler, je vais te vendre des affaires, là, mais j'irai pas vraiment vers toi. T'sais. Mais j'écoute beaucoup les conversations, puis tu sais, déjà. Hey, papa, je les aime. Ah, ce livre-là, il est malade. Hey, cette autrice-là, c'est vraiment bon ce qu'elle fait. Tout ça, là, c'est super le fun. Pour ça, ça vaut la peine de faire les événements.
Donc, ça, comme éditeur, ça te permet de prendre le pouls du lectorat, en quelque part.
Aussi. Ben oui, mais ça.
Parce que, tu sais, dans ton château fort, là, avec ton majordome, t'es quand même un peu. T'es quand même à un bras de distance du plancher des vaches, là. Tu sais, les éditeurs, vous avez pas le temps, là, d'aller vous asseoir en librairie puis d'observer. Les acheteurs potentiels, d'étudier leur comportement, c'est pas, ça se passe pas là, là.
Non, vraiment pas. T'sais, oui, c'est le fun d'aller parler avec les libraires, mais d'observer le comportement d'un consommateur dans une librairie, oublie ça. Là, faudrait que je passe des heures et des jours pour essayer de voir, parce que je veux dire, quelqu'un rentre dans une librairie, l'offre est grande, il n'y a pas juste par-part. Là. Mais quand il rentre dans le kiosque, il y a juste par-part.
Ouais.
Puis là, tu vois vers quoi qu'il s'en va, quelle couverture. Tu sais, le livre de Tom Botanica, là, ça a été le livre le plus touché quasiment dans les derniers événements. T'sais, c'était comme le livre, on dirait que les gens l'avaient vert. Puis là, t'essaies de comprendre pourquoi...
Couverture, le fond mauve.
Ouais, avec un truc plus... Je sais pas pourquoi.
Mais la composition, quand même, avec le...
Ouais. Il y avait quelque chose d'attirant dans ce livre-là. Les gens allaient vers ce livre-là. T'sais.
Le trait aussi, hein? Tom, il y a...
Il y a une swing vraiment
forte. Il y a une swing... Tu sais, pour moi, je lis du Tom, j'ai l'impression de lire, et là, c'est un compliment que je vais lui faire, mais ça me rappelle des histoires de Karl Barks, de l'oncle Picsou. Au niveau de l'arrondi, du swing, du mouvement, tu sais.
Ouais.
Et il y a plusieurs générations qui ont été biberonnées à ça, donc forcément... Il y a quelque chose d'imprimé hein, dans l'inconscient collectif. Donc, tant mieux que les gens soient attirés par le plus récent album de Tom. Parce que...
Puis là, il y a d'autres couvertures. Tu te dis, mais pourquoi les gens ne prennent pas ce livre-là? Il y a des moments plus frustrants. Parce qu'il y a des livres que j'aime vraiment beaucoup, puis les ventes ne se concrétisent pas, puis je comprends pas. Puis là, ça me fâche, les gens. Là, ça me fâche, pas fâche, mais j'essaie de comprendre. Parce que, tu sais... En tout cas, on n'aimerait pas personne, là, mais je dis, il y a des livres là que.
Mais là, pendant que tu parles, justement, je regarde. Ouais. Ah ben, puis ça, c'est une autre chose aussi.
Ouais.
Que je trouve que c'est tout à fait dans la signature et dans l'esprit de Pau-Pau. L'ingénieuse idée de proposer un calendrier papier analogue, ce qui est formidable, là, parce que les maudites applications, c'est fatigant. Mais au-delà de ça, c'est aussi le prétexte pour présenter. C'est un catalogue calendrier. Et là, d'année en année, le catalogue est donc le calendrier se bonifie. Donc, à la fin du catalogue, on a... du calendrier, on a le catalogue. Et là, tu sais, je regarde... C'est fou parce que c'est un voyage dans le temps. De voir tout... tous ces titres-là... Tu sais, j'étais curieux de t'entendre sur l'arrivée de Guy Delisle dans le catalogue de Pow-Pow. Parce que là, tu as récupéré les droits québécois pour ces albums qui avaient été publiés à l'association, donc Pyongyang Shenzhen.
Ouais.
Et là, tu as publié, je pense, en 2020 ou 2019, 2020, Chronique de jeunesse de Guy.
Ouais.
C'est quand même pas banal d'avoir Guy Delisle dans son catalogue.
Vraiment pas. Parce que, tu sais, des fois, je me pince parce que, tu sais, avant d'en faire, puis avant de penser d'en faire, j'en lisais, je veux dire.
Ouais.
Puis, tu sais, ces livres-là, Shenzhen puis Pyongyang, j'ai achetés chez Fichtre, tu sais. Puis, tu sais, je lis.
Mon Dieu, que j'ai dépensé de l'argent, là.
Moi aussi. Tu sais, dans le temps, j'en faisais de l'argent.
Ouais,
moi aussi. Quand j'avais une vraie job.
Ouais, ouais, moi aussi.
Puis, une fois par semaine minimum, là, puis je te claquais, tu sais. Je travaillais pas trop loin, je passais à côté, je rentrais, puis je sortais rarement de là sans livre dans les mains, là. J'en ai dépensé de l'argent, j'en ai lu de la BD. Puis, Guy Delisle, c'est un de mes préférés. Puis, tu sais, aujourd'hui, que je vais prendre un verre avec, puis on jase, puis je le publie. Il y a comme quelque chose qui est surréel. Louis Trondheim, même chose. Là, je veux dire, Guy, je m'en viens à Montpellier, je peux-tu aller te voir? Ben, avec plaisir. Il y a quelque chose qui est comme le fanboy qui en moi qui est comme vraiment. Qui trouve ça capoté un peu. Là.
Puis en même temps, tu sais, Guy, c'est un gars.
C'est pas une diva, là. Vraiment pas, là.
Non, puis tu sais, c'est un... Il est pas extraverti, c'est quelqu'un de très, très accessible, affable.
Très réservé, quand même, là.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Pour l'anecdote, je me souviens une fois, il y a quelques années, j'avais fait une entrevue avec lui, je pense, pour le Journal de Montréal. Et je l'appelle de mon cellulaire chez eux en France. Il rentrait, il venait de finir de couper son gazon. Puis là, je me disais, est-ce quand même incroyable? Tu sais, pour le commun des mortels qui vont lire mon article, j'ai interviewé. Et il faut le dire, c'est une star de la bande dessinée francophone. Là. C'est une méga star, Guy Delisle. Ouais. Moi, j'étais là l'année Angoulême, en 2012. Je couvrais Angoulême pour le Journal de Montréal, donc à ma deuxième année en poste, l'année où il a remporté le Grand Prix pour
Jérusalem.
Là, je me disais, hey, les lecteurs, ils n'ont aucune idée que Guy Delisle, là, 30 secondes avant de prendre l'appel, il était dans le cours puis il finissait de couper son gazon, tu sais. et c'est ça, c'est un gars super accessible. Et quel talent. Alors, dis-moi, sans vouloir te commettre, j'imagine qu'il finira bien par y avoir un autre projet avec Guy Delisle.
Probablement, oui.
Probablement.
Mais tu sais, encore là, plus tôt, tu me demandais... tu sais, je pousse pas, là.
Mm-hmm.
Aucun auteur, je pousse, là, tu sais. Fait que quand... Parce que, tu sais, des fois, j'ai déjà posé la question, parce que des fois, pour le bien des demandes de subvention, tu dois présenter ton programme pour les 4 prochaines années. Fait que là, on demande à tous les auteurs, vous, des projets en cours, tu sais.
Ouais.
Il dit, j'en ai en cours, celui-là, c'est pas, je le vois pas chez vous, celui-là non plus. J'ai peut-être celui-là un jour, mais tu sais, un jour, tu sais.
Mais là, c'est sûr que dans une demande de subvention, j'imagine, ben encore là, j'imagine, je sais pas à quel niveau ces gens-là, du côté des fonctionnaires, ils sont connaissants, mais tu sais, quand un Guy Delisle à venir dans ton catalogue...
Je sais pas comment... ben en fait, c'est pas... C'est des évaluations de pairs, fait qu'il faut que les pairs connaissent...
Ah oui, donc c'est ça. Donc en fait, oui, c'est ça. Alors ouais. Si c'est des pairs du milieu de la bande dessinée, évidemment, Guy Delisle...
Je sais pas si c'est juste du monde de la bande... C'est du monde de la littérature ou de l'art, je pense.
Oui, puis je pense aussi des arts... comme les peintres...
Pas pour les éditeurs, je pense.
Ah
les
non,
éditeurs,
OK.
Je pense que c'est des pairs
éditeurs. Ah non, ça, c'est pour les subventions aux projets pour les artistes. Oui, c'est ça.
Mais pour les éditeurs, ouais. Je pense que ce n'est que des éditeurs. Je pense, là. J'ai déjà fait partie de comité de pairs, mais pour les projets, non. Là, en tout cas, bref.
Oui, oui. Ouais.
Mais je ne sais plus d'où qu'on est parti de cette affaire-là, mais...
Non, mais en fait, c'est que je te demandais... c'est parce que tu me parlais des prévisions.
Ouais.
Que lorsque tu remplis des demandes de subvention...
Si d'autres livres de Guy.
Ouais, c'est ouais. Ça, voilà.
Ben oui, probablement. Ben, en même temps, le futur est jamais certain, là, je veux dire. Si tu peux changer d'idée, peut-être que tu es en train de faire ce livre-là, là,
Ben, le futur, c'est pour plus tard. Puis moi, j'ai l'impression que même si tu dois quand même... que tu dois travailler à prévoir et tout ça, le fait que tu pousses pas, hein, parce que c'est très mauvais, s'acharner dans la vie, ça amène rarement des choses concrètes et positives. Et dans ton cas, ça semble vraiment te réussir. Et je parlerai pas de lâcher prise tant que d'une ouverture. Je te sens, toi, ouvert. Ouvert aux opportunités, ouvert à plein de choses. Et je pense que le fait de ne pas pousser, tu sais, sûrement qu'il y a des éditeurs qui poussent certains de leurs grands noms à faire là. Ben, ça me prend ma locomotive l'année prochaine, là, tu sais.
Je pense que dans des maisons d'édition plus grandes en France, avec des plus grosses structures, que là, il y a des même des compagnies publiques, tu sais, qu'il faut que tu présentes des chiffres, j'imagine qu'il doit avoir une pression, là. Mais, tu sais.
Mettons l'éditeur de Bilal, là.
Ouais. Mais je pense que j'ai été chanceux jusqu'à maintenant aussi, parce que, tu sais, c'est important d'avoir des livres à chaque saison. Ça aurait pu arriver qu'il n'y ait rien, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de livre. Je veux dire, je peux pas en inventer un, là. Mais jusqu'à maintenant, il y a eu de la chance. Tu sais, la rencontre de Johanna pour La Mangouste, c'est un coup de chance, là. Ça passait à un poil que je la vois jamais, cette fille-là, là, tu sais. Tsunami, c'est un genre de coup de chance aussi. Il y a plein de trucs comme ça qui arrivent. Puis que ça s'adonne. Oh yes, on a trois livres à cette saison-là. Encore. Je pense qu'il y a toujours eu deux, trois livres par saison, des fois quatre. Mais on n'est pas à l'abri de. Oh, parce qu'il y a des fois que, tu sais, avec Chloé, puis à l'interne, on parle. Bon, c'est quoi les livres de prochaine saison? Puis on s'en regarde. Puis on. C'est comme beaucoup. Parce que, tu sais, ils nous demandent vraiment de se préparer d'avance. Puis le marché anglophone, c'est encore pire. Il faut que tu te prépares vraiment, vraiment, vraiment d'avance.
Oui, ça, c'est une toute autre culture.
Fait que. Des fois, c'est un peu stressant, un peu angoissant. Le bon, ça va être quoi les livres de la saison prochaine, là, tu sais. Comme là, la saison prochaine, qui est l'hiver 2025, parce que là, l'automne, c'est déjà réglé. Mm-hmm. Puis là, tu sais, c'est pas clair encore, là.
Est-ce que. Ouais, mais en même temps, je te sens pas particulièrement angoissé par ça, outre mesure.
Ben, c'est parce que je suis pas un gars angoissé dans la vie en général, là, mais...
Ce qui est très bon, hein, quand on fait de l'édition.
J'imagine.
Ben, en fait, pour tout dans la vie. Et c'est sûr que c'est pas étranger au succès de ta structure, parce que ouais, l'angoisse, c'est pas très productif. D'ailleurs, moi, je t'ai trouvé... quand même assez culotté de dire bon, ça fait quelques années là, par rapport, c'est sur les rails, lançons la contrepartie anglophone Pawpaw Press.
Ouais, ça c'était cave.
C'était cave, ok, donc c'était pas audacieux, c'était cave, mais c'est parce que le marché nord-américain anglophone, c'est une toute autre partie, là. C'est autre chose de complètement différent.
Ben, c'est pour ça que c'était cave, mais t'sais, je n'ai pas de regrets, là, c'est pas ça. Là. C'est juste que c'était clair dans la mesure que j'avais pas réalisé à ce moment-là encore que le marché du Québec était vraiment particulier, unique. T'sais.
Mm-hmm.
Qui, pour le bassin de d'acheteurs potentiels, de lecteurs potentiels, le nombre de livres que tu peux vendre est quand même assez impressionnant. T'sais. Puis le réseau des librairies est quand même assez... sommes tous en santé d'une certaine façon, oui, à cause de certaines lois qui ont été mises dans les années, oui, 80, qui fait que le système de réseau des librairies peuvent survivre. Ben, moi, dans mon calcul, c'était bon, on vend 1000 livres en français. Le marché du Canada et des États-Unis, 1000 livres, ça va être facile. Ouf, t'sais. T'sais, c'est juste, ouais, dans, t'sais, c'est juste d'en vendre 1000, ça va être correct. Puis, tu sais, le reality check est venu assez vite, là, t'sais, il est venu parce que j'ai pas passé par le chemin traditionnel. Là, on a fait un Kickstarter pour imprimer les premiers.
Mm-hmm.
Pour après ça, une fois qu'il est imprimé, bon, ça nous prend un distributeur.
Ben oui, parce qu'il faut les distribuer, ces livres-là.
Puis là, t'sais, on trouve un distributeur dans une structure qui était pas nécessairement naturelle pour nous, parce qu'ils font pas vraiment tant que ça de bande dessinée non plus. Un peu un cheveu sur la soupe, c'est bizarre pour eux autres. Fait que ça a été, t'sais, puis là, tu te rends compte, bon, après coup, là, les livres sont imprimés, là. Bon, on va aller dans les salons du livre. Ça n'existe pas, les salons du livre au Canada anglais. Il n'y a pas ça.
T'sais. À part les festivals comme TCAF, VCAF, mais c'est ça.
That's it. TCAF, that's it.
Ouais. Sinon, t'as des Comic-Con, mais...
Puis Vancouver, c'est loin à Chris, là. T'sais. Ouais, ouais. Je veux dire, tu vas pas à Vancouver en char une fin de semaine, puis tu reviens, là. T'sais, c'est comme ça coûte de l'argent, fait qu'on n'y va pas, tu sais.
Ouais.
On est allé pour la première fois cette année, là. Fait que... fait que c'était cave pour ça. Mais là, tu sais, c'est comme quand les premiers livres en français, même chose, tu mets ton doigt dans le grenage, je recule pas, j'y vais, je force. Mm-hmm. Fait que là, c'est ça qu'on fait, là, tu sais. La pandémie a été difficile pour le marché anglophone plus qu'au francophone. T'sais, Indigo au Canada, ça a été une catastrophe. Il y a eu des retours de masse. Il y a des éditeurs qui ont failli fermer.
Mm-hmm.
Fait qu'on n'a pas fait de livres pendant ce temps-là, mais là, on revient à la force, puis on pousse à fond la caisse, en tout cas, avec nos moyens. Puis, j'aime l'idée d'avoir une maison d'édition bilingue. On est à Montréal. On est, t'sais, je veux dire... Qu'est-ce qui fait que la bande dessinée du Québec est différente? C'est qu'on a lu de la BD américaine, on a lu de la BD européenne, puis il y a quelque chose, il y a un enfant qui sort de ça. Là, ouais. Il y a comme
un enfant métisse, métissé, ouais, exact. C'est ça.
Fait que, tu sais, d'avoir une bande dessinée bilingue, parce que le tiers des livres qu'on a publiés en anglais, c'est l'auteur lui-même ou l'autrice qui a réécrit le livre en anglais, tu sais. Héloïse, elle a écrit son livre en anglais. Michel, il a écrit ses livres en anglais. Sam a écrit son livre en anglais. Tu sais, c'est pas des traductions, c'est des réécritures, en fait. Tu sais, c'est pas... Fait que j'aimerais ça qu'un jour, il y ait un peu plus d'auteurs anglophones qu'on fasse vers le français. Tu sais,
Oui, c'est-à-dire que là, il pourrait... Parce que là, chez Pawpaw Press, pour l'instant, le catalogue est constitué uniquement de traduction de titres de Pawpaw en français.
Oui.
Mais t'exclus pas l'idée...
Non. De faire des livres première version anglaise, non.
OK.
Mais là, il faut faire nos preuves, là, tu sais, je veux dire, faut attirer, faut...
Ben, en fait, c'est que tu refais ce que t'as fait avec Pawpaw au point de départ.
Absolument.
Mais avec quand même quelques acquis, heureusement.
Puis là, tu sais, puis c'était un autre système. Là, on a un nouveau distributeur américain depuis l'automne passé. On t'arrête d'emmagasiner un autre distributeur américain parce que, tu sais...
Mais là, ça a éclaté aussi, là, avec Preview, avec Diamond qui a éclaté.
On est allé chez l'enfant qui a été créé par rapport à cet éclatement-là, Lunar.
Oh, mon Dieu.
T'aimes pas Lunar? On a fait une mauvaise erreur, une mauvaise choix.
Non, c'est juste que... c'est pas un mauvais choix. C'est juste que durant la pandémie, pour faire une histoire courte, dans les années 80... jusqu'au début, milieu des années 90, aux États-Unis, il y avait une pléthore de distributeurs.
Ouais.
Et tranquillement, Diamond, dans l'univers du comics, ouais, a tout ramassé, a tout racheté et est devenu...
Un monopole.
Un monopole. Et, mais quiconque est propriétaire ou travaille dans une librairie qui tient les produits de Diamond... Et ça a été mon cas pendant quelques années. On se rendait compte à quel point c'est une structure qui est très, très bancale. Et la pandémie a frappé. Et c'est ça. Et là, tout à coup, ils ont été pris de court.
Ça a implosé.
Oui, ça a implosé parce que c'était bancal. Et là, tout à coup, il y a une espèce de structure qui est née de ça, une structure de fortune. Et là, tout à coup, il y a quelques-uns qui se sont... Qui ont décidé de développer, ou en tout cas d'investiguer en ce sens, là, de lancer des structures de distribution. Et c'est devenu éminemment complexe. Et si tu parles avec des propriétaires de librairies qui tiennent du comics puis de la bande dessinée anglophone, ils vont te le dire, là, maintenant, tu sais, c'est Diamond, mais oui, c'est Lunar, c'est Random House, il y en a beaucoup, puis là, j'en oublie, là, mais il y en a beaucoup. Puis au Canada, il y en a beaucoup des structures là, qui distribuent, là. Mais donc c'est ça, c'est un tout autre écosystème. Puis vous autres dans les Comic-Con,
ouais, mais tu sais, le Lunar, mm-hmm, c'est leur réseau, c'est les comic shops,
mm-hmm,
mais nous autres on va aller dans les librairies traditionnelles.
Ben il faut,
ben, c'est ça, c'est
parce là, que c'est là que vous allez vendre,
c'est ça qu'on est en train de travailler, puis c'est on n'aura pas le choix. Mais notre distributeur canadien réussit à atteindre quand même ce qu'il passe un peu aux États-Unis. Puis on atteint un peu les communautés, puis surtout les bibliothèques, puis les librairies, les bibliothèques d'école.
Ben, le meilleur exemple de ça, c'est Bone de Jeff Smith.
Ouais.
Lui, il publiait ça en comics. Je pense qu'il Il y a eu je ne sais pas combien d'éditeurs différents. Et quand les albums sont arrivés en grande distribution là, dans les institutions et tout ça, et là, Jeff Smith, il est devenu multimillionnaire. Là. Et là, tout à coup, il a pu s'installer et, je veux dire, il vit encore très bien de ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, l'enjeu, oui, c'est le fun, les librairies de comics, les comic shops, mais votre pain puis votre beurre n'est pas là, là.
Non, je sais, mais c'était la façon la plus rapide.
Oui, oui, oui.
Puis, tu sais, je veux dire, il y a eu un distributeur d'éditeurs indépendants qui a fait faillite il y a 3-4 semaines, là, le Independent Publishers, whatever, là, quelque chose.
OK.
Fait que là, t'as comme une espèce de crise de, bon, il faut qu'ils se replacent tout.
Oui, t'as une masse critique de gens qui doivent se retrouver un distributeur. Là.
Fait que ouais. Là, nous, on en vise en particulier, là, je dirais pas là, mais... Puis tu sais, le processus de rentrer là, c'est comme... Tu sais, tes entrevues, puis t'as des heures et des heures à passer pour te faire questionner sur le grill de...
C'est comme un emploi, c'est comme une entrevue pour une job, là. Ben,
quasiment, ouais. Fait que c'est là-dedans qu'on commence à embarquer, là. Faut que tu te fasses présenter par un autre éditeur, puis tu sais, c'est pas... Ben, tu sais, en fait, tous les gros éditeurs, même, tu sais, Dimedia ne voulait pas au début, là, je veux dire, faut que tu fasses tes preuves, faut que tu sais, c'est pas parce que tu as fait un livre que, tu sais, du jour au lendemain, t'as un distributeur, là, tu sais.
Non, puis c'est pas parce que t'as fait un livre que t'es un éditeur non plus. l'année prochaine marquera le 15e anniversaire des éditions Pow Pow. Et j'aurais envie de te laisser sur cette question. Es-tu en mesure de me dire s'il y aura des festivités autour du 15e anniversaire? Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, en fait, au-delà de tout ça? On sent comment, à son 15e anniversaire d'éditeur? Parce que là tu es en train de finir l'adolescence, là.
Ouais. Je sais même pas encore c'est quoi le catalogue, le programme de l'hiver 2025.
Dit-il avec un sourire en coin.
Fait que l'automne 2025 et le 15e, je le sais pas encore. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose. T'sais, au minimum, on va prendre une bière entre amis.
Ben j'espère bien. Avec peut-être quelques grignotines, soyons fous.
Peut-être des petites mises en bouche, là, ouais. T'sais,
des petites bouchées, ouais.
Ouais. T'sais, le cantaloup avec, avec une viande en auto.
Soyons fous, ouais. Avec l'option vegan, hein?
Oui, toujours.
Parce bien sûr, Luc.
Il y en a parmi nos autrices auteurs. On va faire de quoi, j'imagine? Mais tu sais, c'est parce que... Je regarde le... John Cotterly qui a fait un livre pour leur 25e.
La pastèque qu'il avait faite pour le 15e, d'ailleurs, ouais.
Il avait-tu fait un livre, la pastèque?
Ben oui, j'y ai contribué. Les 15 ans de la pastèque, ouais. Concordait avec une exposition au Musée des Beaux-Arts.
C'est une expo, je m'en rappelle, j'avais...
Mais ils avaient fait un livre aussi de...
Je dois avoir ça chez nous, dans le fond. En tout cas, bref.
Tu devrais, parce que j'ai... J'ai collaboré à ça.
Ben, tu veux-tu l'écrire, le livre du 15e? C'est de l'ouvrage en estifie, c'est faire ça. Tu sais, on se demandait si on faisait quelque chose avec toutes les pages de calendrier, tu sais, ouais. Utiliser les dessins, tu sais, faire des espèces d'anthologie. Mais en même temps, tu sais, 15 ans, c'est jeune aussi, là. Tu sais, c'est pas...
Mais au Québec, 15 ans, pour une structure éditoriale qui se spécialise dans la bande dessinée, à quel point c'est jeune?
Ben, j'espère que dans 100 ans, on va dire que c'était jeune, tu sais.
Parce que je peux dire une chose. L'aventure Crow a duré 15 ans.
Ouh, ça fait que c'est notre dernière année.
Ben non, faut pas dire ça. Et, pour moi, 15 ans pour un éditeur de bande dessinée au Québec, c'est loin d'être banal.
Je pense pas que c'est banal, mais en même temps, je pense pas que c'est... Tu sais, je pense pas qu'on est à l'abri d'une crise... il est peut-être trop tard pour commencer à parler de faire, mais le monde du livre, il y a une surproduction présentement. Là.
Oui.
C'est un marché, ben, en fait, pas juste le monde du livre, là, tu sais, c'est bien ben des marchés
où c'est saturé.
Surconsommation, ouais. Surproduction. Ouais. Tout le monde a des piles à lire. C'est comme la joke aussi. Tout le monde se part des Instagram à piles à lire. Là,
ouais, moi, je peux te dire que c'est pas une joke. C'est mon quotidien depuis 14 ans. Ouais.
Ben, moi, j'en ai une belle pile à lire, moi. Ouais. Fait que, puis je continue d'en acheter. Fait que, tu sais,
yes, ben oui.
Fait que, puis tantôt, tu disais. Si jamais il y a une crise économique, quelque chose, tu sais.
Ou les conservateurs qui s'en viennent, là, parce que c'est ça aussi.
Mais,
là.
Mais ça, c'est une grosse conversation, là, tu sais, entre éditeurs, quand il y a des rassemblements à l'ANEL, des affaires de même. Ouais. Surtout dans le Canada anglais, là, c'est. Ça freak ben raide.
Ah oui, là, les gens sont nerveux, c'est ça.
Parce que non seulement ils risquent d'avoir des coupures, mais ça fait au moins 20 ans qu'il n'y a pas une augmentation de budget des conseils des arts, là. Tu sais, c'est les mêmes montants qui sont distribués à plus d'éditeurs. Puis prendre le taux d'inflation au travers de ça, c'est comme si tout le monde réduisait leur subvention.
Ah oui, puis il est de beaucoup, là.
Et de beaucoup.
Ah ouais.
Fait qu'il risque d'avoir des fatalités, je pense, dans les. Ben, fatalités, c'était un peu un gros mot, là, mais tu sais.
Non, mais il y aura des répercussions, ça, c'est sûr et certain.
Puis même si c'est pas les conservateurs, je pense que, tu sais, il y a comme. Une mini-bulle qui va peut-être péter, puis tu sais, fait que il faut passer au travers de cette bulle-là, mais je pense que pour l'instant, tu sais, ça serait facile de dire, bon, on fait une nouvelle collection, on passe de 6 livres par année à 12 livres par année, puis on surproduit, puis on essaie, tu sais, ça serait facile de se laisser prendre au jeu, mais j'aime le côté conservateur.
Oui, posé. Ouais.
Ben, j'essaie plus de. C'est pas le nombre de livres, c'est plus le volume de chaque livre qu'il faut qu'il augmente. Là, ouais.
Écoute, j'ai envie de te dire, si jamais je ne collabore pas au livre anniversaire du... j'ose espérer que tu me garderas 2-3 bouchées de cantaloup, que tu me mettras ça dans un petit plat, puis à ce moment-là...
Avec les petits fromages ronds, là, cette boue-là.
Ouais. Ou, pourquoi pas, soyons fous, un biscuit soda là, avec un...
Une olive.
Avec une olive puis un single de Kraft coupé en quatre.
Oui, hein? Oui. T'es fancy quand même.
Ben, écoute, j'ose espérer que je me raffine avec l'âge.
Mais t'étais le monde à la télé, c'était ça quand même. Hein?
Si tu savais. Bon, tiens, tu m'ouvres la porte, on va finir là-dessus. Moi, j'ai travaillé des années sur un téléroman à Radio-Canada. Et à l'heure de la pause, l'après-midi, pour l'équipe technique, les acteurs, tout ça, c'était 2 sacs de chips sur une table.
Nice.
Alors moi, les gens qui disent « Oh, c'est bien, c'est mes impôts qui payent. » Ben, puis tu sais, la cafétéria de l'époque de Radio-Canada, on courait pas non plus pour aller manger, là. Donc, c'était assez modeste. Donc, en ce sens, pour moi, entre le sac de chips au ketchup puis le biscuit avec l'olive puis la tranche de fromage, pour moi, quand même, il y a un certain raffinement, là.
OK, bon, on va essayer de battre le 2 sacs de chips.
Ben, en tout cas, je te souhaite longue vie à toi aux éditions Pao Pao et plein de beaux albums encore, vraiment. Et pour Tsunami que j'ai lu hier, surveiller cet automne l'arrivée de ce fabuleux album en librairie. Et même si vous ne connaissez pas cette auteur-là, pour vrai, garochez-vous, c'est un livre comme il s'en fait trop peu.
Je te contredirai pas là-dessus.
Heureusement, parce que ça me tentait pas de faire de la radio poubelle. Luc Bossé, merci beaucoup.
Merci, Jean-Louis.
Pour ne rien manquer des activités de Pao Pao, rendez-vous au paopao.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt!